Nous avons vu dimanche dernier dans l'enseignement de Jésus sur les inquiétudes de Jésus qui encourage ses disciples à ne pas s'inquiéter en toutes choses. Et c'est l'apôtre Paul qui nous encourage même à aller plus loin, à transformer nos inquiétudes en sujets de prière, en actions de grâce. Et nous voyons au travers de l'exhortation de l'apôtre Paul le résultat bienheureux, c'est que le Seigneur nous environne d'une paix qui surpasse toute intelligence. Et nous voulons réaliser quand même que, oui, humainement parlant, il nous est difficile de ne pas nous inquiéter. Oui, au regard de tout ce qui se passe autour de nous, il nous est difficile de ne pas nous inquiéter, mais nous pouvons tout de même lever nos yeux et contempler notre Seigneur, avoir nos yeux fixés sur lui et faire comme Paul nous le dit, transformer nos inquiétudes en sujet de prière. Nous voyons aujourd'hui le deuxième volet de cette prédication. Après avoir encouragé les disciples à ne pas s'inquiéter, Jésus nous montre véritablement ce qui peut nous détourner de nos inquiétudes. Il va parler d'une préoccupation majeure. Il peut y avoir aussi de mauvaises préoccupations. Quand les préoccupations deviennent des soucis au point que nous n'arrivons plus à lever les yeux, ça, c'est quelque chose qui entrave notre marche avec le Seigneur, tout comme les inquiétudes nous empêchent d'avancer. Mais Jésus donne quand même une priorité absolue. Après, au verset 31, il dira ceci: Ne vous inquiétez donc pas, Matthieu chapitre 6, de ce que vous mangerez ou de ce que vous allez boire, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et ce qui va faire l'objet de notre méditation ce matin, c'est ceci. Verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. La Bible du Semeur dit ceci: Faites donc du royaume de Dieu et de tout ce qui est juste votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Faites donc du royaume de Dieu votre préoccupation première. Voilà quelque chose qui pourra nous détourner de nos inquiétudes. Quelque chose qui va nous amener à centrer nos regards sur l'essentiel. L'objet de notre préoccupation, comme le dira Jésus, c'est le royaume de Dieu. Parce que pour l'enfant de Dieu, après avoir été racheté de notre vaine manière de vivre, après avoir été sauvé par grâce, Paul le montre même aux Éphésiens, le Seigneur nous a arrachés de la puissance des ténèbres. Oui, autrefois, nous étions baignés là-dedans à cause du péché, et le Seigneur, dans sa grâce, nous a arrachés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans son royaume de lumière, ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Ce qui fait de nous des hommes et des femmes avec une identité particulière. Ce qui fait de nous des fils et des filles du royaume. Nous sommes maintenant, nous avons maintenant une identité particulière en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Quelque chose d'essentiel. Quelque chose d'important parce que le monde ne comprend pas cela. Je disais ce matin à ceux qui étaient là qu'à cause de cette identité, vous savez, je n'ai pas besoin d'aller dans une ambassade quelconque pour chercher cette identité. Le Seigneur à la croix, en acceptant de mourir et de souffrir pour nous, nous a octroyé une identité que le monde ne peut pas nous le donner et que le monde ne peut pas nous l'ôter. C'est important, ça, frères et sœurs. Non seulement il ne peut pas nous le donner, mais il ne pourra jamais nous l'ôter. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Et à cause de cela, il advient quand même de réaliser que ce qui convient aux citoyens, c'est de se préoccuper de ce que préoccupe notre Père.
Nous avons un Père dans le ciel. Les inquiétudes, nous avons vu la dernière fois, handicapent notre marche avec le Seigneur. Elle nous empêche d'avancer dans notre marche, mais nous pouvons réaliser que les préoccupations authentiques, une préoccupation authentique, elle est là pour nous booster, elle est là pour nous mobiliser et nous pousser à l'action. Et le désir du Seigneur pour ses disciples et pour l'Église, c'est qu'ils croissent en marchant de progrès en progrès. Se préoccuper. Le dictionnaire définit cela comme porter son attention sur quelque chose. Porter son attention sur quelque chose. Ça peut être une bonne ou une mauvaise, mais de ce que Jésus nous dit ici, il ne nous demande pas de nous préoccuper de mauvaises choses. Il dit, voilà, cherchez premièrement. Et comme nous l'avons vu dans la version du semeur, faites du royaume de Dieu votre préoccupation première. C'est quelque chose de bien. C'est une préoccupation saine et non malsaine. C'est une préoccupation qui va nous amener à aller de l'avant, à ôter nos regards sur ce qui va nous empêcher d'avancer avec le Seigneur. L'objet de toute préoccupation de tout enfant de Dieu devrait être le royaume. Faites donc du royaume de Dieu et de tout ce qui est juste votre préoccupation première. Ah, c'est intéressant ce que nous dit le Seigneur dans sa parole. Parce que dans la pensée du Seigneur, celui qui est sauvé par grâce, celui qui a réalisé le sacrifice parfait de Dieu, celui qui a livré sa vie et qui accepte que le Seigneur soit son maître. On l'a chanté tout à l'heure, « Je suivrai mon Seigneur et mon Sauveur sans jamais m'éloigner. » Celui qui est livré au Seigneur doit maintenant nourrir ses pensées des désirs de Dieu. Je dois m'efforcer à chercher à lui ressembler, à chercher à le servir et à lui obéir. Déjà, quand nous lisons la parole de Dieu, on se rend compte que la recherche du royaume de Dieu est une notion très sérieuse dans le cœur du Seigneur, puisqu'il lui-même, il l'a mentionné dans sa prière, dans la prière du Notre Père. Alors qu'il enseigne ses disciples comment prier, voici ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Jésus montre ici quelque chose d'important pour nous amener quand même à réaliser qu'en tant que croyants, le royaume de Dieu est déjà dans nos cœurs. Par la présence du Saint-Esprit. Oui, il y a là quelque chose d'évident. Nous ne sommes plus de ce monde. Autrefois, nous étions livrés à nous-mêmes. Nous avions pour aspiration les choses de ce monde. Mais depuis que le Seigneur nous a aspirés de ce monde pour nous transporter dans son royaume de lumière, ce qui devrait faire notre préoccupation, ce qui devrait être notre priorité, c'est son royaume. Que ton règne vienne. Nous pouvons quand même réaliser que même si le règne de Dieu est présent dans nos cœurs actuellement, il le sera définitivement lorsque le mal va être détruit. Lorsque le Seigneur établira dans un temps, en soit peu, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et nous aspirons à cela. Nous aspirons véritablement à cette transformation, à ce changement en voulu de Dieu. Oui, c'est de la volonté de Dieu que ce monde dans lequel nous sommes passe et qu'il y ait un monde nouveau, un nouveau ciel pour véritablement montrer qu'il est le Dieu qui est au contrôle. L'importance de cette préoccupation, nous pouvons constater quand même que dans notre société, dans ce monde toujours plus affamé et plus assoiffé de tout et de son contraire, les regards sont sur tout ce qui est sur la terre. Mais quelle devrait être la véritable préoccupation de l'enfant de Dieu? Sommes-nous amenés à nous préoccuper des mêmes choses que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Sommes-nous appelés à vivre de la sorte? Nous pouvons quand même réaliser que nous avons une grâce particulière. Il y a une grâce particulière pour celui ou pour celle qui a donné sa vie au Seigneur. C'est qu'il n'est pas seul. Il n'est pas livré à lui-même. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il a une nouvelle identité. Il est citoyen, elle est citoyenne du royaume de Dieu. Et à cause de cela, voilà, le Seigneur nous ayant racheté de notre vaine manière de vivre pour une vie nouvelle de par l'œuvre de Christ à la croix, c'est l'apôtre Paul qui nous montre quel devrait être le véritable comportement de l'enfant de Dieu. Dans son épître aux Colossiens, voici ce que Paul va dire. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand nous lisons la version originale, ce n'est pas le mot « si » qui a été utilisé, mais c'est le mot « puisque ». Et Paul donne ici quelque chose d'essentiel. Puisque vous avez été ressuscité avec Christ, ce qui devrait faire l'objet de votre préoccupation, ce ne sont plus les choses de la terre, mais les choses d'en haut. Il dira à l'apôtre Paul, cherchez et affectionnez-vous. Cherchez. Et affectionné. L'essence de cette vie nouvelle, c'est le statut de citoyen du royaume de Dieu que le Seigneur nous a octroyé. Et en attendant notre union avec le Seigneur dans les cieux, nous pouvons d'ores et déjà goûter à cette vie nouvelle-là. En esprit, dans son épître aux Éphésiens, Paul nous dit ceci au chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Voilà un privilège pour l'enfant de Dieu. En esprit, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous jouissons de ce privilège grandiose que le Seigneur nous a donné et nous donne. Pourquoi? Parce que lui-même a été ressuscité. Si Christ n'avait pas été ressuscité, nous ne le serions pas. Et si nous pouvons être assis dans les lieux célestes, c'est parce que non seulement il nous a ressuscités, mais aussi il nous a transportés dans son royaume de lumière. Et en esprit, nous pouvons jouir de ce privilège et de cette grâce. Et voilà, et comme Paul le dira aux Corinthiens, celui qui s'attache au Seigneur est un avec lui en esprit. De ce fait, grâce à la résurrection de Christ, Nous, le croyant, nous avons cette espérance de la vie parce que nous sommes unis avec lui dans la puissance divine. C'est la puissance de la résurrection. Paul parle de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Il est important, frères et sœurs, que nous réalisions cette chose sans la puissance de résurrection, sans réellement une prise de conscience que le Seigneur, lorsqu'il va mourir et qu'il va ressusciter, il nous permet aussi, à nous qui avons cru, lorsque nous livrons notre vie au Seigneur, nous qui étions morts au péché, il nous ressuscite, non pas pour vivre sur cette terre qui sera un jour détruite, mais il nous a ressuscité pour une vie nouvelle. Et même si actuellement nous sommes sur cette terre, malgré tout, pourris, perdus, nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir par avance de la grâce que nous aurons d'être réunis avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble, dans les lieux célestes. C'est là notre héritage, frères et sœurs. Notre héritage n'est pas sur cette terre. Le Seigneur sait pourquoi il a laissé son Église sur la terre. Nous sommes appelés à assumer notre part de responsabilité en tant que citoyens du ciel sur la terre. Mais nous devons d'autant plus avoir nos yeux non pas sur les choses de la terre, mais sur les choses qui réjouissent le royaume de Dieu. La mentalité du croyant ne devrait pas être comme celle du monde. Jésus dira à ses disciples, voilà, vous n'êtes pas de ce monde, mais vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ce qui nous amène à réaliser quand même qu'il y a une vérité qui se dégage, puisque le Seigneur nous a ressuscités. Et à cause de cela, Paul dira, cherchez et affectionnez-vous des choses d'en haut. Quand je m'affectionne à quelque chose, je m'y attache. Quand il y a de l'affection, il y a de l'attachement. N'est-ce pas? Il y a de l'attachement. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à nous attacher aux choses qui vont passer. Il dira lui-même, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Mais amassez-vous des trésors où? Dans le ciel. Parce que c'est notre destinée. Nous sommes appelés à hériter du ciel à cause de l'œuvre de Christ. Et à cause de cela doit être, nos priorités doivent être celles de Dieu en étant même sur la terre, au quotidien. Cherchez les choses d'en haut et portez nos pensées et nos efforts sur ce qui est éternel et non sur ce qui est temporel. Vous conviendrez avec moi qu'humainement parlant, ces choses sont difficiles. Humainement parlant, je dis bien. Parce qu'on est sur la terre et il y a tout ce que nous voyons sur la terre. Et nos yeux humains ne voient pas ce qui nous est réservé dans le ciel. Mais c'est la foi qui nous amène à réaliser quand même qu'un jour nous entrerons en possession de notre héritage. C'est la foi qui nous amène à réaliser que même si en esprit nous sommes assis dans les lieux célestes, un jour viendra où l'Église, où les croyants, où l'épouse de Christ va y être personnellement. L'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux Colossiens pour montrer ce qui doit faire l'objet de leur priorité, il montre également qu'un jour l'Église où les croyants sont appelés à paraître dans la gloire avec Christ. C'est notre espérance future. Mais nous pouvons réaliser qu'avant de pouvoir paraître dans la gloire, il va falloir à un moment donné que l'Église, le corps de Christ, que l'épouse de Christ soit au préalable enlevée avant de paraître. Ce n'est pas une chose inverse. Tant que l'Église n'est pas enlevée, elle ne pourra pas paraître dans la gloire quand Christ reviendra. C'est deux choses différentes. Il faudrait quand même que je réalise la grâce que le Seigneur me le donne. C'est Paul qui nous parle de cet enlèvement de l'Église dans sa première épître aux Thessaloniques. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 4, chapitre 4, verset 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous. L'apôtre Paul montre quand même ce qui doit faire l'objet de notre réjouissance. Même si tout s'effondre autour de nous, la pensée de savoir qu'un jour nous serons réunis avec notre Seigneur dans le ciel doit être un sujet de réjouissance. Consolez-vous les uns les autres. Pourquoi ? Parce que nous avons là, déjà sur la terre, comme je l'ai dit, le bonheur d'avoir été sauvé. Mais comme nous l'avons chanté, le plus grand bonheur du croyant, c'est d'être réuni avec Christ. C'est notre plus grand bonheur. Et Jésus lui-même dira, voilà, je m'en vais et je vais vous préparer une place et je reviens. Je reviens. C'est une promesse certaine. Elle s'accomplira. Que nous le voulions ou pas. Mais ce qui est dommage, c'est de ne pas être prêt au jour où il revient pour nous chercher. Parce que je répète ce que j'ai dit il y a quelques semaines en arrière, qui va peut-être choquer quelqu'un, mais je disais ceci, quand Christ reviendra quand l'Église va être enlevée, il convient de réaliser que ce n'est pas l'Église dans sa globalité. Ce n'est pas l'Église dans sa globalité qui va être enlevée, mais seulement ceux et celles qui vont se préparer convenablement. Ça fait peur, hein? Ça fait peur, frères et sœurs. D'autant plus que nous devons en travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Parce que les choses s'accélèrent. Tout se met en place pour montrer véritablement que le Seigneur ne tardera plus. Et ce jour, personne ne le sait. La parole de Dieu nous le dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et si quelqu'un vient vous annoncer que ce jour viendra, tel jour, fuyez-le. Je vous le dis. Si vous entendez un prédicateur vous dire, ça sera un tel jour, moi je crains pour lui. Franchement. Parce que la parole de Dieu est claire, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et comment un prétendu prédicateur va venir nous dire, voilà, moi j'ai reçu ça de la part du Seigneur. Écoutez, arrêtons quand même. C'est pour cela, faisons attention à tout ce que nous écoutons, nous entendons sur Internet et quoi que ce soit. Fions-nous à la parole de Dieu, frères et sœurs. Remplissons nos cœurs, vivons pleinement la parole. C'est notre source de vie. C'est ça qui va nous préserver de tout ce que nous pouvons entendre. Alors, la raison de la recherche du royaume. Jésus dira, faites du royaume de Dieu et de tout ce qui est juste votre préoccupation première. Nous avons la certitude et l'assurance qu'il viendra. C'est une certitude et c'est une assurance. Il viendra et nous l'attendons. Et de cette manière, tout est moralement fini avec ce qui est sur la terre. Nous devons vivre notre vie de manière à ce que quand le Seigneur vienne pour nous chercher, il ne trouve rien à nous reprocher. À cause de cela, le Seigneur veut amener ses disciples dans sa propre position vis-à-vis du monde. Puisqu'il les a placés dans sa propre position vis-à-vis de Dieu. Un jour viendra où nous allons quitter la terre. Mais nous devons quand même réaliser que bien avant que nous soyons réunis avec notre Seigneur, nous devons rendre témoignage de Christ et marcher comme lui-même il a marché. Nous devons en vivre d'une manière digne. Dans 1 Jean au chapitre, chapitre 2, verset 6, l'apôtre Jean dira ceci. 1 Jean chapitre 2. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et pour nous, quelle doit être cette marche? Alors que Paul s'adresse aux Colossiens pour leur montrer voilà, l'objet de leur préoccupation, il dira ceci. Il dira ceci, l'apôtre Paul. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et vous ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Paul montre ici la manière de vivre. Puisque tout doit être moralement fini entre nous et ce monde, je dis bien moralement, nous sommes sur la terre. Pour l'instant, nous sommes sur la terre. Mais moralement, tout doit être fini entre nous et ce monde. Et nous devons centrer nos regards sur ce qui est dans le ciel, puisque c'est notre demeure, le ciel. Nous sommes passagers. Nous sommes de passage, nous sommes étrangers, et ça, malheureusement, nous avons du mal avec cette notion d'être étranger sur la terre. Et pourtant, c'est une vérité. Jésus dira, je le répète, je m'en vais et je vais vous préparer une place et je reviens vous chercher. Je reviens vous chercher. Puisqu'il reviendra nous chercher, cela montre que l'objet de ce qui doit régir notre vie n'est pas ce qui est dans ce monde, mais ce qui est dans le monde dans lequel nous y serons pour l'éternité. Parce que c'est là notre demeure, c'est là où nous allons vivre pour toujours auprès du Seigneur. Là où il n'y a ni douleur, pour l'instant peut-être il y a les rhumatismes, il y a ceci, il y a cela, sans négliger ce que les uns et les autres peuvent vivre. Mais nous réalisons quand même qu'un jour viendra où tout prendra fin. Je ne me soucierai plus de mon mal de dos. On ne se souciera plus, du mal de genou. Non, ce serait quelque chose de merveilleux. Et il convient quand même de réaliser, frères et sœurs, que malheureusement, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens ne vivent pas dans cette perspective de l'enlèvement de l'Église. Malheureusement, on pense que c'est quelque chose de lointain. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit un jour, « Pasteur, il y a 2000 ans qu'on nous a dit. Oh, » J'ai dit, « Oui, mais pour l'instant, tu n'as pas 2000 ans. » Mais si le Seigneur tarde, c'est pour un but précis. Il veut que les hommes soient sauvés. Et toi, tu as encore envie, rends grâce au Seigneur. Et confie-toi en lui. Ne mets pas en doute ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que c'est le piège de l'ennemi. Il va te faire croire que si les choses tardent, elles ne s'accompliront pas. Et pourtant, le Seigneur, Paul dira, en un clin d'œil. C'est quoi un clin d'œil? Comme ça, et voilà, tout change. En un clin d'œil, à la voix de l'archange, au son de la trompette, il y a des choses qui vont se passer. Et nous devons quand même réaliser, frères et sœurs, que c'est un événement majeur. C'est ça qui doit être notre préoccupation première. L'occupation, la préoccupation première de l'enfant de Dieu devrait être véritablement d'être réuni avec le Seigneur dans le ciel. Et quand je fais de cela ma préoccupation, automatiquement, je mettrai de côté mes inquiétudes. Je mettrai de côté ce qui m'attire plus bas, puisque mes regards sont fixés sur ce qui préoccupe le Seigneur. Parce que c'est de la volonté de Dieu que ses enfants soient réunis avec lui. Quel père ne veut pas être avec ses enfants? Quel père? Même si parfois nous sommes pénibles sur la terre, oui, le Seigneur se réjouira de nous accueillir dans son ciel de gloire. Et c'est merveilleux. Et je dois réaliser quand même, voilà, qu'en attendant en ce jour, je dois m'efforcer à faire de cette préoccupation en authentique la mienne. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord. Et comme nous l'avons lu dans la version du semeur, voilà, faites du royaume de Dieu votre préoccupation première. Qu'est-ce qui vous préoccupe ce matin? Qu'est-ce qui me préoccupe ce matin? Je reprends pour vous la définition. De se préoccuper, c'est porter son attention sur quelque chose. Sur quoi est portée mon attention? Et je me pose cette question, frères et sœurs, en tant que croyant, en tant que citoyen du royaume, sur quoi est portée mon attention? Que le Seigneur nous aide. Parce que nous vivons véritablement les temps de la fin. Et tout est mis en place, malheureusement, pour nous détourner de l'objectif fixé par Dieu pour nos vies. Et c'est ce que veut l'ennemi de nos âmes. Mais combien il convient à l'enfant de Dieu de ne pas passer à côté et de pouvoir se ressaisir en se rappelant que ce qui doit être notre bonheur éternel, c'est d'être réunis avec Christ. D'être réunis avec Christ. Vous savez, je termine juste avec ceci. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que des choses se sont produites. Des promesses ont été accomplies. Et certains le seront encore. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Chaque promesse s'accomplit au temps de Dieu. Et ce n'est pas à moi de vouloir précipiter une promesse quelconque. Parce que chaque promesse s'accomplit au temps de Dieu. Et il convient quand même de réaliser que ce qui devrait réjouir notre cœur, c'est cette promesse-là, la promesse de l'enlèvement de l'Église. La promesse de l'enlèvement, elle viendra, elle s'accomplira, que je le veuille ou pas. Mais malheureusement, il y a deux choses, soit je suis prêt ou je ne le suis pas. Et je parle pour moi, chacun pourra parler pour lui. Il convient quand même de réaliser que j'ai ma part de responsabilité. Parce que ce n'est pas en prêchant la parole que je vais être enlevé. Hein. C'est pas ça le... non. Paul dira, il s'efforce. Pourquoi? Parce que même en prêchant, il ne veut pas être mis de côté. Ce qui montre la responsabilité de chacun. C'est pour cela qu'il dira aux Colossiens, « Puisque vous êtes ressuscités, cherchez et affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Parce que celles qui sont là ont tendance à nous ramener, alors que les choses qui sont en haut, elles vont nous propulser. Et c'est le désir de Dieu que nous soyons propulsés. Il veut d'ores et déjà qu'en étant sur la terre, nous marchions de progrès en progrès. C'est la volonté de Dieu. Et tout est mis, tout est là pour que nous marchions de progrès en progrès. Alors si je ne me nourris pas de ce qui convient, je ne dois pas être déçu. Parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Jésus dira, ne vous inquiétez de rien, mais cherchez premièrement que vos regards, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a toutes sortes d'inquiétudes qui occupent le cœur du croyant, malheureusement. Et je le répète, je ne veux pas minimiser ce que vivent les uns et les autres. Parce que parfois, nous vivons des choses terribles, humainement parlant. Et le Seigneur nous amène quand même, il veut nous amener à ne pas nous occuper de ces choses, mais à nous décharger sur lui. C'est pour cela l'apôtre Paul dira, voilà, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Il veut nous amener à transformer nos inquiétudes en actions de grâce pour nous amener quand même à réaliser qu'il y a une préoccupation ultime qui doit envahir notre cœur. Et il dira, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence envahira vos cœurs et vos pensées. Ça, le monde ne le comprendra jamais. Alors que c'est ce qui doit faire notre réjouissance. Parce qu'au sein même d'un monde inquiet, au sein d'un monde qui est dans l'incertitude, et ça prend de l'ampleur, l'incertitude de notre monde. Et c'est même au sein même de cette incertitude que le Seigneur nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que quand Christ apparaîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. Que le Seigneur nous bénisse. Puissions-nous véritablement porter nos regards sur ces choses-là. Et alors, le Seigneur s'en occupera du reste. Quand je ferai du royaume de Dieu ma priorité, ma préoccupation essentielle, ce qui est secondaire, qui sont parfois légitimes, le Seigneur s'en occupera pour sa gloire. Parce qu'il voudrait que l'on donne la priorité d'abord à ce qui est essentiel. Alors que le Seigneur nous bénisse. Vraiment que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions en vivre d'une manière qui plaise au Seigneur, même si tout nous dit le contraire, que le Seigneur se glorifie dans nos vies. Amen. Nous voulons porter notre attention, Seigneur, c'est vrai, non pas sur notre propre personne ou sur nos propres besoins. Seigneur, nous voulons porter notre attention sur ce qui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, est essentiel, Seigneur. Je me réjouis encore à la pensée qu'un jour, je serai avec toi. Je me réjouis encore à la pensée qu'un jour, Seigneur, je vais être enlevé, ô mon Dieu, mon roi, pour être auprès de toi, Seigneur. Et même si tout semble sombre autour de moi aujourd'hui, ô éternel, mon Dieu, je ne vais pas me soucier, Seigneur, mais je vais porter mes regards vers l'avant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce qu'il n'y a pas d'espérance dans le passé, Seigneur, mon Dieu. Oui, mon Dieu, mon roi, je te bénis encore parce que tu nous donnes tout dans ta parole pour nous amener à vivre une vie épanouie en toi. Seigneur, rappelle-nous encore chaque jour ce qui est notre bonheur, Seigneur mon Dieu éternel. Seigneur, nous voulons vivre chaque jour et quand les inquiétudes viendront, quand, Seigneur, l'incertitude sera là, Seigneur, rappelle-nous cette vérité, mon Dieu, mon roi, que nous serons un jour enlevés auprès de toi. Et à cause de cela, Seigneur mon Dieu, nous n'avons pas à nous inquiéter, mais à nous laisser transformer par toi, à laisser nos vies entre tes mains, Seigneur, et toi-même, tu prendras soin de nous. Bénis mes frères et sœurs. Seigneur, mon Dieu, oui, s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui vit en permanence dans l'incertitude, dans l'inquiétude, Seigneur, dans la crainte, dans la peur, oh, donne-lui les forces nécessaires afin qu'il lève les yeux, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi, éclaire-le, Seigneur, par ton esprit. Oh, Seigneur, bénis ton peuple. Donne-nous d'être ces modèles pour toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de nous préparer convenablement. Oh, Seigneur, s'il te plaît, nous savons que ce jour ne tardera pas. Alors, s'il te plaît, fais-nous grâce et glorifie-toi dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen.